Hashtag. Hashtag. L'attac.
Voilà le hashtag l'attaque avec aujourd'hui Florence Porcel, Axel Villard et un nouveau venu dans la bande, Éric Sadin. Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Bonjour à tous, Éric Sadin, écrivain, philosophe. Vous serez notre consultant en nouvelle donne technologique et numérique. Et pour vous accueillir, et comme il se doit, je vais vous demander quelle est votre info du jour, Éric Sadin.
Alors, j'ai lu hier dans un rapport sur les big data rédigé par le Commissariat Général à la Prospective, cette mention sur les MOOC, vous savez, les fameuses Massive Open Online Courses, qui rendrait possible, je cite, « l'analyse des activités des élèves, temps consacré, la façon de suivre les programmes, les allers-retours dans les vidéos pédagogiques, les recherches Internet parallèles, etc., pour améliorer les modes d'enseignement ». Je referme les guillemets. Alors, pour ma part, j'avoue être assez sceptique, quand même, relativement à la conclusion. Si les cours en ligne recouvrent peut-être une forme d'efficacité fondée sur des approches certes individualisées, cette dimension de suivi et de mesure continue m'effraie assez. Alors, ce n'est plus le bulletin trimestriel de notre enfance ou celui de votre adolescence, Mathieu, mais qui devait tous être excellent, personne n'en doute.
Bien sûr, bah oui.
Ou la copie régulièrement notée, mais une évaluation appelée à terme à être continue. Il n'est pas certain que ces méthodes contribuent in fine au plein épanouissement de l'étudiant.
Bon, on verra ce qui se passe. En tout cas, les MOOC, effectivement, c'est cours en ligne. Florence, dans l'actualité aujourd'hui, Hubble a encore frappé.
Oui, de l'eau a été détectée sur 5 exoplanètes. Deux équipes d'astronomes sont à l'origine de cette découverte, faite donc grâce au télescope spatial Hubble. Ce n'est pas une nouveauté chez des planètes hors du système solaire, mais ce genre d'analyse de données est tellement difficile que c'est la première fois que les résultats sont si précis et qu'ils permettent surtout de comparer plusieurs planètes. Il s'agit de vapeurs d'eau dans les atmosphères de 5 géantes gazeuses de type Jupiter, proches de leur étoile, parce qu'il n'y en a qu'une. On est encore loin d'océans sur des planètes de type Terre, mais on avance lentement, mais sûrement, vers une meilleure connaissance d'autres mondes.
C'est intéressant quand même, vapeur d'eau découverte autour des exoplanètes.
Absolument.
Il y a une belle avancée. Axel, à Manhattan, certains résidents pensent entendre les fantômes du 11 septembre.
Oui, écoutez ce que plusieurs vidéastes ont enregistré autour de la toute neuve Liberty Tower qui a remplacé feu les deux tours du World Trade Center. Alors, pas de fantôme, bien sûr.
C'est le son réel, ça,
oui,
de ce qu'on pouvait entendre.
Oui, c'est le son enregistré de la vidéo qui entoure les tours. Alors, pas de fantôme, mais un effet acoustique bien connu. La résonance, ces sons ont été remarqués en cas de grand vent. La structure de la tour, le plus haut gratte-ciel des États-Unis maintenant, réagit comme une harpe géante et vibre, laissant rayonner ces sons qui sont très mystiques. Alors, si le 11 septembre n'avait pas eu lieu, peut-être que les habitants trouveraient ça beau. Mais là, l'atmosphère est vraiment pesante et hantée.
Ouais, et donc, ça tourne en ce moment sur les réseaux.
Oui, il y a plusieurs vidéos qui tournent.
Éric Sadin, vous revenez sur l'affaire Prism et l'Europe pour votre première intervention.
Oui, l'année 2013 aura été marquée par le séisme planétaire causé par l'affaire Prism, divulgué par Edward Snowden, qui a exposé aux yeux du monde que la NSA, l'Agence de sécurité nationale américaine, intercepte massivement et de toutes parts des données personnelles.
Ouais.
Depuis juin dernier, de nombreuses révélations se sont succédées qui nous ont appris que la NSA bénéficiait d'un accès direct aux données des utilisateurs de 9 des plus grands acteurs américains de l'Internet. Ou que les téléphones portables d'Angela Merkel ou ceux d'une trentaine de chefs d'État ou de gouvernement avaient probablement été mis sous écoute. Ou que des millions de communications en France, en Espagne, en Italie et dans bien d'autres pays avaient tout autant été interceptées. Hier encore, le Washington Post révélait que des centaines de millions de téléphones portables seraient quotidiennement pistés par la même NSA.
La liste est longue.
Ouais. Alors, il ne s'agit là que de quelques faits, parmi bien d'autres, à l'intérieur d'une longue liste qui, on le voit, est à ce jour encore loin d'être refermée.
Alors, qu'est-ce que nous apprend cette affaire, Éric ?
Eh bien, cette ampleur de la collecte de données menée tous azimuts par la NSA ainsi que par de nombreuses autres agences gouvernementales de renseignement qui ne sont pas en reste, d'ailleurs, a été rendue possible par la conjonction de trois facteurs. D'abord par le fait que nous ne cessons de disséminer toujours plus de traces numériques nous concernant. Ensuite par la pression sécuritaire qui s'est considérablement accrue depuis les événements de septembre 2001. Et enfin par le marketing contemporain dont le cœur de l'activité consiste à récolter et à exploiter sans vergogne les données du plus grand nombre de consommateurs. Ce bouillon de culture particulièrement favorable à la surveillance des personnes s'est formé en très peu de temps finalement. une petite quinzaine d'années.
Et oui, c'est vrai. Oui.
Sans que les sociétés dans leur ensemble aient pris le temps ou le soin de se confronter comme il se doit à ces enjeux.
Donc ça veut dire quoi ? Qu'il est temps maintenant d'édifier, on en parle souvent, une nouvelle gouvernance de l'Internet ?
Hein ? Je pense. Je reviens juste de Bruxelles, où j'étais hier auditionné par le Comité économique et social européen, et où l'on m'a demandé de formuler quelques préconisations concrètes que j'énonce ici, pour partie, à l'attention des auditeurs de La Tête au Carré. Droit à l'oubli, soit une durée de conservation limitée dans le temps et possibilité à tout moment d'effacer les données nous concernant. Clause de consentement soumise aux utilisateurs, se limitant à un nombre réduit de chapitres et de lignes. Souvent, on n'y comprend rien, ouais. C'est beaucoup trop long. Usagers propriétaires en droit des données les concernant. Statut juridique pour les lanceurs d'alerte. Et enfin, je prône, oui, la mise en place d'une unique CNIL à échelle européenne qui devrait, selon moi, être légitimement présidée, je le propose, par Edward Snowden.
Ah ben oui, tiens, pourquoi pas.
Au nom de son courage
allons-y directement.
Et de sa conscience exemplaire.
Ouais.
Oui, il revient à mon sens, à notre vieille Europe, de se saisir de ces questions éthiques, politiques et juridiques et d'édifier les bases futures d'un web 3.0, celui d'un Internet capable d'associer dès à présent et pour l'avenir esprit d'innovation et respect de la vie privée des individus.
Eh bien, on verra si vos idées sont retenues, Éric Sadin, en tout cas, dans les semaines qui viennent ou dans les mois qui viennent. Florence, la Lune pourrait permettre de produire de l'énergie, finalement.
Oui. Comment à la fois vendre du rêve, très cher le rêve, résoudre un problème inextricable et sauver le monde ? Une société japonaise semble avoir trouvé la réponse et ça tient en quelques mots. Couvrir l'équateur de la Lune de panneaux solaires. Les sceptiques et autres sinistres diront que c'est de la science-fiction et ils n'auront sans doute pas tort. Mais je rappelle que 10 ans avant le premier pas sur la Lune, le premier pas sur la Lune était de la science-fiction. Donc, intéressons-nous au projet appelé Lunar Ring. Alors déjà, en quoi va-t-il résoudre un problème inextricable ? En l'occurrence, le besoin de plus en plus grand d'énergie alors que les énergies fossiles disparaissent. Petit à petit. Laissons Tetsuji Yoshida, qui s'occupe de ce projet chez Shimizu Corporation, nous apporter une réponse dans leur vidéo de présentation.
Regarder vers l'avenir, c'est prédire qu'en 2030, la population mondiale consommera l'équivalent de 17 gigatonnes de pétrole. Nous envisageons que le Lunar Ring puisse générer l'équivalent en énergie. Et quand toute cette énergie atteindra la Terre, il n'y aura plus besoin de produire de l'énergie à partir du charbon, du pétrole ou de la biomasse. Toute l'énergie dont nous avons besoin pourrait être importée de la Lune jusqu'à la Terre. Le CO2 n'augmenterait pas et aucun gaz dangereux ne serait généré.
Donc, plus besoin de pétrole ou de gaz de schiste, plus de CO2 dans l'air, tout viendra du solaire lunaire qui produira 13 000 terawatts par heure, soit 3 fois plus que la production d'énergie électrique américaine actuelle. Oui, mais comment ? Là encore, écoutons Tetsuji Yoshida.
La Lune montre toujours la même face à la Terre, que nous appelons face visible. L'énergie ne peut être envoyée à la Terre que depuis la face visible de la Lune. Dans le Lunar Ring, il y a des câbles qui transportent l'énergie depuis les installations solaires jusqu'à la face visible de la Lune. Les câbles sont enterrés sous la ceinture. Depuis la Lune, l'énergie est transmise sous deux formes, les micro-ondes et la lumière laser, à toutes les régions de la Terre.
Mais avant de réceptionner l'énergie et de la transformer pour ensuite la distribuer, encore faut-il que cette ceinture de panneaux solaires soit construite.
Bah oui.
Et c'est là que ça se complique. L'équateur de la Lune fait 11 000 km et la Lunar Ring est censée faire 400 km de large. Et Shimizu Corporation prévoit de tout construire avec des matériaux extraits de la Lune par des usines lunaires, le tout mis en forme par des robots. Rêvons un peu, pourquoi pas. Les travaux sont censés commencer en 2035, mais seulement s'ils trouvent le financement.
Seulement.
Voilà. Le problème, voilà. C'est qu'aucun chiffre n'est sorti. Alors, ça vend du rêve, oui, mais ça le vend sûrement très cher.
Axel, une parution importante, très commentée également aujourd'hui sur l'étude des origines de l'homme dans la revue Nature et un invité dans le hashtag L'Attaque pour en parler.
Oui, nous sommes en ligne avec l'anthropologue Jean-Jacques Hublin de l'Institut Max Planck à Leipzig. Bonjour, monsieur.
Bonjour, Axel.
Alors, bonjour, Jean-Jacques Hublin.
Alors, bonjour, Mathieu.
Si vous êtes avec nous aujourd'hui en direct, c'est que cette parution est importante pour plusieurs raisons. Une équipe de chercheurs a réussi à séquencer et analyser des fragments d'ADN humain vieux de 400 000 ans. C'est un record qui outrepasse largement le précédent. Alors, en quoi cette publication dans Nature aujourd'hui révèle-t-elle de l'exploit, comme on peut le lire ?
Eh bien, l'ADN qui se conserve pendant un moment dans les eaux fossiles se dégrade quand même assez rapidement. Et donc, c'est un long ruban qui se coupe en petits morceaux. Et grâce aux techniques qui ont été mises au point par un de nos jeunes chercheurs qui s'appelle Mathias Meyer, eh bien, on arrive maintenant à rabouter des tout petits fragments. Là, dans l'étude dont vous parlez, il s'agit de fragments qui font seulement 40 paires de bases. Pour vous donner une idée, Le génome humain, c'est plus de 3 milliards de paires de bases. Et donc, en raboutant tous ces petits bouts, Matthias Meyer est arrivé à reconstituer une partie, une petite partie du génome de ces hommes qui vivaient il y a 400 000 ans.
Et l'ADN analysé, c'était de l'ADN mitochondrial, hein, il faut le préciser. C'est un petit organite de la cellule humaine, mais ce n'est pas notre génome propre, hein, pas celui qui est dans le noyau de nos cellules. Il est plus facile à séquencer, mais plus difficile à faire parler. Et pourquoi ?
Oui, alors cet ADN, c'est de l'ADN qui a été, qui est l'ADN de ces mitochondries, qui sont en fait probablement des bactéries qui ont été incorporées à nos cellules il y a très très longtemps. Et ces mitochondries se reproduisent par elles-mêmes, si je peux dire. Et donc, on a, au cours de la reproduction, de l'ADN qui est transmis seulement par la mère et pas par le papa, qui passe de son ovule dans les cellules de ses enfants. Et donc, on a des lignées maternelles mitochondriales. Le problème de cet ADN, c'est qu'il ne se recombine pas. Il n'y a pas de mélange au moment de chaque reproduction. Et donc, une lignée, à supposer qu'une femme, par exemple, n'ait pas de descendance au-delà d'un certain nombre de générations, une lignée peut se perdre complètement. Ou elle peut se conserver. Donc, c'est un petit peu une loterie.
Mais malgré ça, on peut quand même tirer des conclusions de l'étude de cet ADN-là. Là, on a dit que l'ADN permettait de rapprocher les restes trouvés des Denisoviens, qui sont des lignées qui ont vécu en Sibérie et en Océanie, alors qu'on les pensait plus proches des Néandertaliens. Est-ce qu'en étudiant l'ADN nucléaire, on pourrait avoir des conclusions plus précises ?
Oui, en fait, il nous faudrait de l'ADN nucléaire pour vraiment résoudre ces problèmes phylogénétiques, parce que, comme je l'ai expliqué, l'ADN mitochondrial peut un petit peu par accident passer d'une espèce à une autre. On a des exemples, par exemple, avec les ours polaires et les ours bruns. Donc, pour avoir la réponse, il nous faudrait l'ADN des chromosomes, l'ADN nucléaire. Mais là, évidemment, ça demande une quantité de matériel beaucoup plus importante que celle qui a été utilisée pour cette étude en termes de quantité de fossiles, hein, quantité d'os.
Écoutez, merci professeur Jean-Jacques Hublin pour cet éclairage et espérons qu'on puisse appliquer cette technique à l'ADN nucléaire bientôt.
Voilà, en tout cas avec ces fragments humains vieux de 400 000 ans et c'est effectivement une technologie tout à fait importante. Merci Jean-Jacques Hublin, à très bientôt, on en reparlera évidemment dans La Tête au Carré. Merci Eric Sadin et Florence Porcel.
Merci.